Radio Okapi, grand témoin.
Il s'appelle Urbain Marie Mompi, il est secrétaire général honoraire à la recherche scientifique et c'est lui que grand témoin vous présente aujourd'hui. Monsieur Marie Urbain Mompi, bonjour.
Bonjour madame.
J'ai inversé votre prénom. C'est plutôt Urbain Marie Mompi.
Urbain Marie Mompi.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec vous dans cette émission, nous allons parler de l'enseignement en RDC. Nous allons parler de la recherche scientifique. Mais avant d'aborder toutes ces questions, on va commencer par une brève biographie de vous. Vous naissez où et quand?
Je suis né dans la province de Bandundu. Je suis des parents paysans. C'est dans une petite localité située le long de la nationale numéro 1.
La localité, elle s'appelle comment?
Loi, le 28 novembre.
Et c'est là où vous grandissez, où vous avez passé votre enfance?
Oui, j'ai passé mon enfance là-bas, mais surtout à l'école, entre les mains des prêtres Oblats de Marie Immaculée, dans le diocèse d'Idiofa. Et j'ai passé mes études primaires. D'abord, j'ai commencé à Ipamou. J'ai suivi l'enseignement sélectionné. En principe, c'est pour les séminaristes, futurs séminaristes. On m'avait orienté au séminaire, mais j'avais refusé. Mais
pourquoi vous avez refusé?
À cause
c'était
de la durée.
C'était pas votre vocation?
Non. C'était à cause de la durée. Ça m'effrayait. Et j'ai dit non, je pars pas, c'est trop long.
Ce sont mais vos parents qui vous ont proposé de faire ça?
Non, c'est mon maître. Mon maître est le père directeur de l'école primaire, Joseph Becker. Par la suite, vous voyez, Dieu lui-même m'a montré que ce n'était pas...
C'était pas votre chemin, quoi.
C'était mon chemin, mais j'ai refusé. Et il m'a montré le contraire. Parce que j'ai dit que c'était trop long, ça allait durer longtemps. Alors, il m'a dit, bon, vous allez ailleurs? Oui. Mais vous allez vous faire plus longtemps que ça. Et j'ai fait plus longtemps. Si je partais au séminaire, j'allais terminer peut-être les études 18 ans après. Mais comme je me suis orienté ailleurs, d'abord, premier coup de fouet, là où j'ai demandé, j'ai échoué. Je suis allé à l'école moyenne.
C'est où ?
À l'école moyenne Angosso. C'était simple, alors que moi j'étais souvent premier, ben voilà.
Vous avez fait au test d'admission.
Mais oui, j'ai dû reprendre l'enseignement ordinaire en cinquième, parce qu'il n'y avait pas de cinquième sélectionné. À Libaya, cette fois-là, à l'école primaire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, avec le père Jacques Delors. Et j'ai terminé là-bas en 55. Le père m'a demandé où est-ce que j'allais continuer. J'ai demandé l'école normale. Et voilà, c'est là que je vais briller, parce que c'est presque une vocation, n'est-ce pas, missionnaire. Et j'ai terminé le premier cycle à là-bas, parce que l'école était transférée et débaptisée Saint-Jean Bosco. Et j'ai terminé en 61. Et l'école n'était plus un cycle court, c'était cycle long, qu'on appelle école normale primaire. École normale primaire, Saint-Jean Bosco.
École normale primaire, ça veut dire quoi? De la première jusqu'en sixième année primaire?
On formait des instituteurs, n'est-ce pas? Vous commencez la pédagogie dès la première année et vous faites 6 ans.
Première année primaire?
Non. Première année secondaire.
Ouais.
C'est ça. Mm-hmm. Nous étions de la première promotion pour commencer ce genre de programme. D'école normale primaire. Parce qu'il y a école normale primaire pour enseigner à l'école primaire et à l'école normale moyenne. Ce sont des ISP actuels qui ont été transformés. C'est ça qu'on appelle école normale moyenne. Et dans mon diplôme, on appelle graduat, mais c'est marqué école normale moyenne. Mmh. Après ça, vous allez à l'école normale supérieure. C'est un système qui n'existait plus. Aujourd'hui, on a généralisé les humanités et on a dilué la finalité de l'enseignement normal. On a complètement dilué la finalité de l'enseignement normal qui vise à former les enseignants pour l'école primaire, pour l'enseignement secondaire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on parle des humanités pédagogiques générales, pédagogie générale.
Et vous préférez quoi, l'ancien système ou le nouveau?
Mais non, ici, aujourd'hui, ce n'est pas, on ne formait pas des enseignants.
Mais les études pédagogiques,
on formait des gens qui peuvent aller enseigner. Sinon, c'est pour l'université. Vous voyez, c'est pour l'université. On ne peut pas chasser deux lièvres à la fois. Former un instituteur, ce n'est pas comme on formait un D6 aujourd'hui. Non, un instituteur, mais c'est un formateur qui a aussi des connaissances générales, mais pas quelques heures de pédagogie comme ça. Et on commence d'ailleurs la pédagogie en question où? En troisième année, alors que ça devrait commencer en première année. Donc aujourd'hui, je peux dire que pour le cycle primaire, d'enseignement primaire, il n'y a pas une école de formation de cadre.
Est-ce qu'il y a nécessité de faire une réforme dans l'enseignement aujourd'hui?
Oui, oui. Il y a nécessité vraiment absolue de faire la réforme. Mais quelle réforme? C'est ça, n'est-ce pas? Il faut voir la nature des crises ou de la crise qui sévit pour le moment. Même les parents, même les profanes savent très bien que notre enseignement national est en crise depuis longtemps. Ça dure. C'est une crise chronique et multidimensionnelle.
Ça commençait déjà à votre époque?
J'ai un élément de comparaison. Je peux parler aujourd'hui, parce que j'ai un élément ou des éléments de comparaison. Je suis à cheval sur deux systèmes que j'ai vécu. Avant l'indépendance, j'étais au secondaire. J'ai vu des enseignants. J'ai vu des étudiants. J'ai vu comment on formait les enseignants. Moi-même, j'étais sujet de cette formation-là. Aujourd'hui aussi, je sais comment on forme les gens et je sais comment les produits de cette formation évolue sur terrain. Il y a plusieurs syndromes qui montrent qu'il y a une crise. Sur le plan social, vous savez, il y a des enseignants qui sont tout le temps en grève et la condition des enseignants. J'ai vu ça avant l'indépendance. Ce n'était pas cette condition-ci. L'enseignant était capable d'acheter une voiture. Aujourd'hui, on ouvre les classes comme on veut. À ce temps-là, on n'ouvrait pas des classes comme ça. Il fallait d'abord l'arrêté du ministre qui sorte. S'il n'y en a pas, la classe ne fonctionne pas.
Donc on peut dire que vos études primaires et secondaires, c'était au Bandundu.
Oui, et si c'est à Mulambongo, comment orienter pour faire l'école normale, pour devenir instituteur?
Vous avez fait l'ISP à Bukavu.
J'ai commencé à Bukavu en 67, juste quand on commençait la session, la guerre a éclaté.
Vous étiez obligé de quitter Bukavu.
Oui, on nous a évacués. Ce sont des Américains qui nous ont envoyé un gros avion pour nous évacuer sur Kinshasa.
Vous avez continué à Kinshasa?
J'ai continué à Kinshasa. Les amis de Kivu, de Bukavu, parce que moi je suis de ce côté-ci, je suis allé à l'IPN. Je suis allé faire encore un test là-bas pour être admis là-bas.
Vous avez fait quelle option?
Je fais l'histoire.
Vous êtes historien?
Je suis historien.
Vous connaissez bien l'histoire du Congo, hein?
On a étudié l'histoire comme science, et non pas pour savoir ce que... Non, l'histoire, oui, je connais l'histoire du Congo.
Parlons de votre parcours professionnel. Donc, vous avez un diplôme de graduat de l'UPEN?
J'ai deux diplômes. Ça, c'est le premier cycle.
Le premier cycle, le diplôme de graduat?
Oui, de graduat. J'ai fait encore un concours pour entrer à l'école normale supérieure. N'est-ce pas? Ça n'existe plus. Je fais 2 ans d'agrégation, donc je suis agrégé.
On peut comparer ça à un diplôme de licence?
Oui, aujourd'hui, on les appelle licenciés agrégés, comme ça.
Alors, quand vous quittez l'UPEL, qu'est-ce que vous faites? Vous avez beaucoup travaillé dans l'enseignement.
Bien, après mes études, j'ai été affecté comme professeur au Maïndombe à Inongo, à l'Athénée d'Inongo. L'Athénée d'Inongo. Mais j'étais disputé, j'étais à cheval. J'avais refusé de travailler dans le réseau catholique. Je suis catholique. Mais moi, j'avais des ambitions. Je dis, si je vais là-bas dans le secteur privé, libre là, privé, mais comment je vais assurer ma promotion? C'est ça la raison. J'aimerais bien être à l'officiel, comme ça je traite avec l'État. OK? Et l'État peut me récompenser par des promotions.
Par des promotions. Et donc, lorsqu'on travaille dans les privés, on est un peu freiné?
Non.
Quand on est dans l'enseignement privé?
Bon, vous voyez, c'était ma vision. Moi, je trouvais que comme si j'allais là-bas, je n'aurais pas de promotion. C'était seulement question
des promotions,
d'avenir. D'avenir.
Alors, vous avez travaillé, vous avez décidé d'aller travailler avec l'État?
Oui.
Donc, dans les écoles publiques?
Oui, j'étais là, mais à cheval. J'ai donné cours à l'Institut Tosalisana et au lycée Bondeko. Et ici, chez moi, donc là où j'étais initialement affecté, à l'Athénée de Maïndombe. Une année après, j'ai été désigné préfet. Une année après. C'était une école qui était dirigée par un Congolais, mais les professeurs étaient des Haïtiens, des Congolais aussi et des Béninois. Une année après, mon prédécesseur devait partir. Il voulait, coûte que coûte, aller assumer les fonctions d'inspecteur d'enseignement secondaire. Alors on lui a demandé qui il voulait.
Pour le remplacer, vous avez désigné.
Oui, se faire remplacer. Il m'a désigné.
Vous avez passé combien de temps dans l'enseignement,
toute ma carrière, je l'ai passé dans l'enseignement.
Vous êtes à la retraite,
Je suis maintenant honoraire, secrétaire général.
Racontez-nous, comment vous vous retrouvez secrétaire général à la recherche scientifique?
Comment?
Racontez-nous un peu. Vous avez gravi les échelons et puis pour vous retrouver un jour secrétaire général à la recherche scientifique?
Oui, je dois vous dire que j'ai effectivement galoper le chef de l'administration sans demander. Les promotions me sont tombées toujours comme ça du ciel.
Grâce à votre savoir-faire, vous vous défendez bien.
Oui, justement, c'est ça. J'avais la stratégie d'améliorer toujours le travail. Je ne vais pas aller demander des appuis, des interventions.
Vous n'avez pas fait ça.
Je n'avais pas fait
ça. Jamais de votre vie.
Jamais. Je ne le fais pas. Seulement, j'améliore mon travail. Effectivement, d'abord, quand j'étais la toute première année que j'ai passée à l'école primaire, n'est-ce pas, à Mangaï, j'étais titulaire de la classe de 7e. Parce que à ce temps-là, l'école primaire allait jusqu'à la 7e année. On avait instauré pour la première fois le système d'examen sélectif au niveau du diocèse. Ma classe était la première. Quand on m'a désigné, une année après, en 73, c'est l'année 73-74. Préfet, moi je ne savais pas. Seulement, on est venu m'appeler, il y a un huissier qui est venu m'appeler. Je ne savais pas que le chef de division était là. C'est pour me dire que le chef de division a besoin de vous. Et je m'en vais, et j'ai trouvé le chef de division, j'ai trouvé le préfet, mon préfet. Le chef de division, que je ne connaissais pas, m'a dit, mais c'est toi, Moubi Urbain? Je dis, oui. Quel est ton titre? Je dis, je suis agrégé de l'enseignement. Il dit, mais oui, mais est-ce que vous êtes capable de diriger cette école? Je dis oui. Comme ça, spontanément. Je dis oui. Vous avez déjà dirigé? Je dis non. Seulement, j'ai restructuré le système d'enseignement primaire et secondaire dans mon diocèse, quand j'étais élève réfugié à Ipamou. Je dis de quelle façon? Je dis voilà, quand la rébellion a éclaté, deux prêtres ont été tués. C'est ainsi que tous les autres ont dû aller se réfugier en Belgique. Mais quel était le système? L'école, la direction centrale était à Ipamou, ok? Mais le système était lequel? C'était dans des villages, première année, deuxième année. Première année, deuxième année. Des villages qui sont très éloignés. Et ces gens-là devaient faire plus de 50 kilomètres pour venir faire seulement la troisième année à Ipamou. Vous imaginez? Alors, ça, c'est une question qui me préoccupait quand j'étais encore à là-bas.
Et vous avez fait quoi?
Et qu'est-ce que j'ai fait? Comme le père n'était pas là, j'ai dû regrouper toutes ces premières années et toutes les deuxièmes années pour savoir le nombre de directions que je peux avoir. Mm-hmm. J'ai fait une école primaire de l'autre côté là-bas, à Bangoumouna, complète, une direction complète. J'ai fait une autre à Mokoko, c'est une localité sur la grande route, une grande localité, une école primaire complète, à Kasangunda. Avant pour Mouseka, donc il y en a 5.
Alors vous devez être fier de ce que vous avez fait.
J'ai donné cet exemple-là au chef de division qui voulait savoir si j'avais déjà dirigé. Je lui ai donné seulement ce cas-là. Alors il dit, bon, le pouvoir peut se partager, mais l'autorité ne se partage pas. Voilà c'est les conseils qu'il m'avait donnés. Et j'ai commencé à diriger l'Athénée. Les gens n'étaient pas d'accord. Des citadins, des gens d'Inongo n'étaient pas d'accord. Quand je suis venu à Kinshasa pour chercher des professeurs, pendant ces vacances-là, n'est-ce pas? Eh bien, après, ils ont fait des troubles. Après, oh non, c'est un blanc bec, un type qui vient d'arriver ici, il y a des grands professeurs, et on ne les a pas désignés, pourquoi on a pris ces missions-là? Je rentre, eh bien, je fais comme si de rien n'était. Je les ai fait ici, à Kinshasa, je suis allé là-bas, j'ai commencé à travailler. 3 mois après, tous ceux qui étaient contre moi, n'est-ce pas? J'ai vu un substitut qui m'a demandez, dis, moi j'étais contre vous. Je n'étais pas pour votre désignation là-bas, parce que vous venez d'arriver. Mais je vois quelque chose, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Je vois quelque chose, mais... Parce que nous avons imposé, c'est mon domaine, n'est-ce pas? Moi j'étais formé pour, on nous formait pour être des dirigeants de l'enseignement.
Alors, toute votre carrière dans l'enseignement?
Oui. 5 ans après, à Inongo, je devais aller diriger. Le lendemain, il y a quelqu'un qui vient dire, vous êtes nommé chef de sous-division. Voilà, comme je vous ai dit, que ça a tombé seulement du ciel. Je suis allé à Gongo.
Et après, chef de sous-division?
J'ai dû réintégrer parce qu'on m'a relégué. Ça, c'était un calvaire pour moi. Les politiciens, quand ils ont vu le succès de ce que je faisais...
Que vous aviez?
J'avais une grande sous-division qui comportait 4 zones, dont 2 dans le Kwango, Feshikaemba, et 2 dans le Kwango, Idiofa, méga territoire, vous comprenez, et Gungu. Eh bien, quand j'étais présent, omniprésent partout, parce que j'avais un vécu.
Mais vous faisiez du bon travail, pourquoi les politiciens pouvaient être contre le travail que vous faisiez?
Quand j'arrivais, par exemple, dans une zone, n'est-ce pas, au seul lieu, eh bien, il y avait des parents, il y avait des élèves, des enseignants qui venaient poser leurs problèmes.
Alors, vous aviez plus de succès qu'eux, c'était ça?
Mais ils trouvaient que le type ici aura certainement des ambitions politiques. Mm-hmm. Ils sont venus ici chez...
Et vous n'avez jamais eu d'ambition politique, non?
Non, à ce moment-là, je n'avais pas d'ambition politique, absolument pas. Ils ont fait pression auprès du ministre Mwendi, qui est mort déjà, Mwendi, qui était de l'éducation, et dit, ces garçons ne peuvent plus être chef de sous-division là-bas. Même pas ici à Kinshasa, même pas dans le Bas-Congo. C'est ainsi qu'il m'a envoyé, presque, c'était une relégation. C'était une relégation, je ne mangeais que des mangues. Ça, je vous dis.
Ils vous envoient où, dans votre village?
J'étais envoyé à Doroma. Doroma, c'est
dans la province orientale.
À la province orientale, à Doroma, à 6 km de Soudan. Mais il y avait, quand je suis arrivé à Isiro, il y avait un certain Léon Ngbe, commissaire du district. Il était de l'Équateur. Il dit, mais qui t'envoie là-bas? Mais il y a des lions en route. Ça accapare des personnes dans des véhicules roulants. Ce n'est pas possible. Il a changé l'affectation pour me mettre. Il dit, Doroma, par rapport à Dungu, Doroma est une petite cité. Le chef-lieu de la zone, c'est Dungu. Vous allez là-bas. Et je suis allé à Dungu. C'était un calvaire, je vous dis. Et c'est lui qui a demandé la sous-division. C'était par complaisance. Il jouait le trafic d'influence. Cette sous-division-là, Doroma, sous-division de Doroma, ne comportait que 3 écoles. Vous imaginez, 3 écoles seulement. Et le ministre de signer un arrêté pour créer une sous-division qui n'a pas d'école. Vous voyez la complaisance. Et aujourd'hui, nous avons...
C'est le plus mauvais souvenir que vous gardez de l'enseignement.
Ah non. Mais jusqu'à présent, l'anarchie continue. On crée des écoles pour faire plaisir, soit des dirigeants. On ne demande même pas si ils ont un minimum de
formation.
Ah, vous comprenez ça. Mais aujourd'hui... Pourquoi l'État est incapable, le gouvernement est incapable de payer, d'assurer un salaire décent aux enseignants? Mais parce qu'il y a un nombre effrayant d'écoles dont on ne sait pas maîtriser la gestion. Non, c'est compliqué. Notre enseignement doit être planifié. Qui trop embrasse, mal étreint. Nous sommes dans ce cas-là. C'est le cas.
Parlons de la recherche scientifique à présent. Alors, vous avez travaillé comme secrétaire général à la recherche scientifique et à un ministère de la recherche scientifique, mais on a l'impression que c'est un domaine vraiment négligé parce qu'il y a beaucoup de chercheurs qui se plaignent du fait qu'ils ne sont pas accompagnés dans leur recherche. Vous avez travaillé dans ce ministère.
Oui.
Comment vous expliquez cela?
Vous savez que la recherche est tout le temps tantôt collée à l'enseignement, tantôt séparés. Ça fait partie du système éducatif, si vous voulez bien. Et c'est ainsi que, pour aller à la recherche scientifique, mon passage n'a pas posé de problème. Je n'ai pas demandé un transfert, c'était une mutation interne, une affectation seulement. Je suis passé de l'enseignement supérieur. J'ai fait presque les 3 ministères, primaire,
Primaire et secondaire,
enseignement supérieur. J'étais chef de division à la coopération, puis inspecteur de gestion, si vous voulez bien, c'est ça. Et pour passer de là
à la recherche
scientifique, ce n'était pas difficile. J'étais affecté là-bas, directeur des services généraux, première direction. Okay? et après j'ai été promu comme secrétaire général. La recherche scientifique, partout ailleurs, c'est un ministère très important. Vous entendez parler des innovations, vous entendez parler des inventions, pas surtout des inventions, mais des innovations. Ce sont des chercheurs. Vous entendez, par exemple, les téléphones. Ça, c'est le résultat des recherches, n'est-ce pas? Et il y a beaucoup de choses que vous avez dans les industries, ce sont des résultats de recherche, l'industrie. Mais ici, chez nous, d'abord, la conception de la recherche, pour moi personnellement, n'est pas correcte.
C'est-à-dire?
On crée les centres de recherche sur les mêmes bases que l'on crée les universités. Vous comprenez? Ce sont des établissements qu'on crée comme ça. Mais je pense qu'ailleurs, ce n'est pas comme ça. D'abord, on distingue la recherche fondamentale, c'est-à-dire la recherche théorique. Le chercheur n'a pas un objectif direct comme ça. Ça va. Il réfléchit sur des phénomènes et il ne sait pas où il va arriver. Cette recherche-là coûte cher. Mais il y a une deuxième sorte de recherche. La recherche appliquée. La recherche appliquée.
Et avec cela, on sait où on va aboutir. À quel
la recherche, aujourd'hui, la tendance est celle-là. Si vous allez au Japon, si vous allez aux États-Unis, vous allez en Europe, et on fait en même temps la recherche fondamentale, c'est vrai, vous comprenez? La recherche fondamentale, c'est celle qui est collée au développement du pays ou des pays, collée à des réalités. Je vous donne le cas de quelqu'un qui a inventé un petit appareil pour broyer les feuilles de manioc. Voilà la recherche appliquée. Vous comprenez? Il y a un problème qu'il a observé, que les mamans, en pilant comme ça, vraiment, elles ont de la peine. Elles ont de la peine. OK? Il a réfléchi. L'objectif de la recherche appliquée, c'est de résoudre un problème qui se pose dans la société.
Écoute, mais pourquoi encore, les chercheurs ne sont pas,
ce n'est pas financé.
Accompagnés? Ils ne sont pas accompagnés, pourquoi?
Ils ne sont pas accompagnés. Cher. D'abord, je dis bien, la conception n'est pas bonne. C'est le gouvernement qui devrait faire en sorte que les résultats de la recherche soient applicables. Vous me comprenez? Le gouvernement doit définir des orientations selon les problèmes de développement qui se posent à nous. Nous avons deux centres qui sont dans la recherche appliquée. Le CERGEM fait des recherches appliquées sur les minéraux. CERGEM, ça veut dire quoi? Centre de recherche géologique et minière. CERGEM. Ils ont des appareils pour apprécier la valeur des minéraux. C'est CERGEM qui faisait ça. Au lieu d'utiliser ces centres-là pour ces services-là, ils ont créé un autre service. Pourquoi? Mais c'est un double emploi.
Donc c'est l'État qui tue.
Mais c'est ça, c'est la conception. C'est la conception. Et je donne un deuxième cas. Vous savez que nous avons ici l'institut qu'on appelle INERA, Institut National de la Recherche Agronomique. Avant, c'était INEAC, du temps colonial. Eh bien, comme le gouvernement colonial savait utiliser ces centres-là, mais ça a fait des merveilles. Le progrès de l'agriculture en Amérique latine, c'est parti des résultats des recherches de l'INEAC. Parce que c'était des chercheurs blancs, belges. OK? Ils étaient financés. On doit financer par programme. Vous comprenez la recherche. On dit voilà, vous, CERGEM, cette année-ci, vous allez faire des recherches. Nous avons besoin de connaître, par exemple, des jugements par ici, par là, et ainsi de suite. Au lieu de payer des choses, il faut acheter des équipements appropriés pour doter ces centres-là pour faire la recherche appliquée. Vous voyez, par exemple.
L'État a des moyens?
Mais justement, vous devez investir. Qui veut avoir des intérêts doit investir. C'est ça. Je pense que c'est l'État qui devrait redéfinir les programmes de recherche et brancher les chercheurs là-dessus. Vous me comprenez? Et nous, pays sous-développés, nous n'avons pas de moyens pour faire la recherche fondamentale. Ça coûte cher. Et c'est comme l'argent jeté dans la mer. Vous pouvez arriver à un bon résultat, comme vous pouvez ne pas arriver à un résultat. Les savants qui font ces recherches-là, hein, c'est pour le bien de l'humanité, mais ce n'est pas à court terme. Tandis que la recherche appliquée, c'est propre à chaque pays. Donc c'est le gouvernement qui doit définir les programmes de recherche et non pas laisser chaque chercheur chercher faire quoi.
Alors, monsieur Urbain, Marie-Moumpi, on n'a plus beaucoup de temps. Une petite question en passant comme ça. Vous êtes marié, père de combien d'enfants?
Ah, oui, je suis papa de 8 enfants et qui tous ont terminé l'université et presque tous travaillent bien. C'est le premier gouvernement pour n'importe quel citoyen, cadre qui veut faire la politique. Je pense qu'on doit lui poser la question de savoir s'il a réussi à diriger le premier gouvernement.
Qui est sa famille?
De sa famille. Parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas de famille, hein, qui voudraient être à la tête pour diriger tout le monde. Mais le premier test, c'est de diriger d'abord sa femme et sa famille, ses enfants. Parce que vous avez mis de l'ordre et vous avez réussi. C'est ça. Je peux dire que j'ai réussi. À 70%.
Vous avez réussi à diriger votre petit gouvernement, votre famille. Mmh. Vous avez réussi dans votre carrière d'enseignant. Je suis sûr que vous en êtes très fier aujourd'hui.
Je suis très fier. Je vis aujourd'hui, vous savez, hein, du fruit de mon travail d'éducation des enfants. Vous savez, ils sont très bien placés, tous. Mm-hmm. Très bien placé.
Un dernier mot à tous ces auditeurs qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi.
Ah, merci maman, merci madame. Petit mot, c'est seulement parce que nous parlons de l'enseignement et de la recherche, c'est le développement de notre pays. Le mot que je peux dire, c'est que nous devons d'abord nous comporter d'une façon responsable dans notre pays pour organiser notre développement de façon responsable. La recherche scientifique, c'est un secteur très important, ok, qui peut nous aider à construire notre indépendance. Construire, je dis bien, c'est Lumumba qui l'a dit, construire notre indépendance. Vous savez que nous dépendons de l'extérieur à 90% depuis 1960. On s'est amusé comme ça seulement pour se disputer les pouvoirs, toute la course au pouvoir. Nous venons de perdre 50 ans. Les 50 premières années, nous les avons perdues totalement. Le Congolais, aucun gouvernement de ces gouvernements successifs n'a créé une société sur base de la transformation, de la mise en valeur de nos ressources naturelles. Et vous savez très bien que le Congo, c'est un pays scandale de la nature. Nous avons beaucoup de richesses ici. On ne peut pas parler en termes de chômage ici. Il suffit tout simplement de faire un programme pour mettre nos ressources en valeur et tout le monde aura du service. Vous comprenez? Tout le monde aura un emploi. Des jeunes qui vont aux études. Mais vous créez beaucoup d'écoles. Vous créez beaucoup d'universités. Mais vous fabriquez des chômeurs pour rien. Et du côté de l'investissement pour mettre en valeur nos ressources. Bon, on ne fait aucun effort. 50 ans durant, nous n'avons créé aucune société. Vous trouvez normal? Nous ne sommes pas responsables. Les gens de Brazzaville nous ont dit, lorsqu'il y a eu la guerre des ondes, hein, en 68-69, pourquoi vous malmenez votre pays de cette façon-là? On dirait que vous êtes des étrangers. Nous demandons seulement que l'on puisse être responsable. Nous ne sommes pas sérieux.
Merci, monsieur Urbain, Marie Moumpi. Ah. Bonne journée à vous.
Merci bien, madame.
Un grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Urbain Marie Moumpi, secrétaire général honoraire à la recherche scientifique. Merci à Dieudonné Masunda qui est à la technique, au micro Kélin Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche à tous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.